de la source d'un cœur brisé. Quelle est la raison? On parlera de l'expression d'un cœur brisé. Comment ici David exprime par des images ce cœur qui est brisé? On parlera également des réalités d'un cœur brisé. Qu'est-ce qu'on vit? Comment ça se traduit quand le cœur est brisé? Et puis on parlera aussi des attentes, parce qu'on attend aussi quand notre cœur est brisé. Puis surtout, on conclura par la réparation, par la guérison d'un cœur brisé. Alors on lit ce psaume ensemble, si vous voulez, c'est le psaume 69. C'est un psaume de David, on ne sait pas dans quelles circonstances il a été écrit, qu'est-ce que David est en train de vivre, mais voilà ce qu'il dit, David, dans ce psaume. « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. » Mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Ô Dieu, tu connais ma folie, mes fautes ne sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur éternel, maître de l'univers. Que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Le zèle de ta maison me dévore et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je pleure, je jeûne et c'est ce qui m'attire les insultes. Je prends un sac pour habit, je suis l'objet de leurs moqueries. Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi. Les buveurs de liqueurs fortes se moquent de moi dans leurs chansons. Et moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Retire-moi de la boue, que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis de l'eau profonde, que le courant ne m'emporte plus, que le gouffre ne m'engloutisse pas, et que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi. Ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi vite. Approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. L'injure me brise le cœur. Je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, leur prospérité une entrave. Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir. Fais-leur constamment courber le dos. Déverse ta fureur sur eux. Que ton ardente colère les atteigne. Que leur domaine devienne désert. Que plus personne n'habite dans leur tente. En effet, ils poursuivent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de celui que tu as blessé. Ajoute cette faute à leur faute. Qu'il n'ait pas à ta justice. Qu'il soit effacé du livre de vie. Et ne sois pas inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel, plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. Les humbles le voient, se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres. Il ne méprise pas les siens quand ils sont prisonniers. Que le ciel et la terre le célèbrent, ainsi que les mers et tout ce qui y vit, car Dieu sauvera Sion, il reconstruira les villes de Juda, on s'y établira, on les possédera, la descendance de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y habiteront. Amen. Amen. Alors ce psaume, comme je le disais en introduction, c'est David qui l'a écrit, mais on ne sait pas dans quelles circonstances, mais Le moins qu'on puisse dire, elle exprime, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, son cœur est brisé. Son cœur est brisé. Il dit même, je suis anéanti. On verra tout à l'heure clairement ce que cela signifie. Et je crois que ce matin, on peut tous s'appuyer, les uns et les autres, sur ce psaume. Et puis, on verra en parallèle un exemple aussi que l'Écriture nous donne pour nous aider à comprendre ces moments que l'on traverse, où notre cœur est brisé, où notre vie est anéantie, où dans ces moments, bien, on remet même parfois en cause en doute eh bien, certaines promesses, certaines paroles, la présence tout simplement parfois de notre Dieu. Ce psaume nous parle d'abord de la source. Qu'est-ce qui, pour David, mais on va le voir aussi pour nous, est à la source d'un cœur qui est brisé. Il y a quelques mots-clés ici qui sont évoqués dans ce psaume. D'abord, pour David, hein, il est question de haine, il est question d'injure, il est question d'insulte, il est question de moquerie, il est question de déshonneur, il est même question d'empoisonnement. Et quand on y réfléchit, finalement, bien, on s'aperçoit que tous ces éléments, ils touchent à la personne, dans ce qu'elle est, dans sa personnalité. Ils ébranlent sa personnalité, ils remettent en question son identité, tous ces éléments. Et on pourrait dire ce matin que d'une manière générale, finalement, la source d'un cœur brisé est souvent liée à cette réalité. Si on réfléchit, on peut être brisé, bien sûr, à cause du péché, mais ça va remettre en question notre identité d'enfant de Dieu, par exemple. On peut être brisé par la maladie, par l'épreuve, par une situation de conflit, par des problèmes familiaux, etc. Il y a tellement de raisons, mais si on fouille, si on va un peu plus loin, bien on s'aperçoit que finalement, cela nous remet en cause dans ce que nous sommes, dans notre personnalité, dans notre identité. Il y a un exemple, on le prendra en parallèle, c'est celui d'Anne. Anne, dans 1 Samuel 1, hein, vous relirez ces textes, mais vous savez que dans cette réalité où Anne se retrouve finalement stérile, sans pouvoir enfanter, et Pénina à côté, parce qu'Elkana a deux femmes, eh bien elle qui peut enfanter, et la Bible nous donne ici un autre mot-clé, c'est celui de provocation. Hein, Pénina va provoquer Anne à ce qu'elle s'irrite contre l'Éternel. Et pour Anne, bien sûr, eh bien, c'est une atteinte de son identité de femme, bien entendu, dans son intimité. Parce qu'à l'époque, vous le savez, eh bien, le fait de ne pas pouvoir enfanter, donner la vie, hein, était considéré comme quelque chose qui était comme une punition divine. Hein, si elle était stérile, c'est que quelque part, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Anne. Et la double peine, eh bien, c'est que Anne, non seulement est stérile, mais Pénina la provoque dans son identité de femme, bien entendu. Et c'est pour elle la source hein, de cette réalité, la source de son brisement. Alors, on peut avoir un cœur brisé ce matin en rapport avec, bien sûr, des événements du passé, on le sait bien, qui ont affecté notre identité. On peut vivre aussi des moments au quotidien. On parle beaucoup en ce moment dans le milieu scolaire, par exemple, de harcèlement. Mais là aussi, ça peut être une situation familiale, quotidienne, récurrente, et on est touché, affecté dans notre identité. On peut aussi avoir un cœur brisé par rapport à l'avenir. De quoi sera fait l'avenir pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, etc. Et toutes ces situations, eh bien, c'est mon identité alors d'homme, de femme, de mari, d'épouse, de jeune, d'enfant, mais aussi d'enfant de Dieu qui est touché, qui est bouleversé. On a cette conception, cette petite voix ou même notre cœur qui nous condamne. Mais alors, si tu vis cela, c'est parce que certainement, il y a quelque chose qui ne va pas et ça remet en cause même notre identité d'enfant de Dieu. Il y a un voile qui se met sur nos yeux quant à la réalité de notre Père Céleste, de son amour, de sa bienveillance. Et on est affecté, comme Anne, comme David, au plus profond de nous-mêmes, on est bouleversé à cause de cette identité eh bien, qui est attaquée, qui est remise en question. Et ce matin, eh bien, le Seigneur nous rappelle ces choses, comme David, il dira ceci, « Mais l'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. » Alors, j'ai regardé sur le dictionnaire « anéanti hein, », parce que « anéanti », ça veut dire « détruire totalement ». Ça veut dire « réduire à néant ». Ça veut dire « plonger dans un abattement total ». Et il y a des moments, quand notre cœur est brisé, il y a cette petite voix qui monte, qui dit oh, « de toute façon, je ne suis plus rien. Je ne sers à rien. Je ne suis plus rien. » Ça touche à notre identité, parce que le cœur est brisé, parce que pour toutes sortes de raisons, notre identité eh bien, est remis en question et on dit, je ne suis plus rien. et on est touché au plus profond de nous-mêmes. L'expression d'un cœur brisé, quelles images ici David donne pour essayer un petit peu d'expliquer ce qu'il vit. Eh bien, il parle ici de l'eau qui est profonde, il parle d'un courant qui l'emporte, et puis il parle aussi bien de s'enfoncer dans la boue. C'est des images qui nous parlent, ça. Hein. Tout de suite, on peut voir quelques situations. Hein, je vous l'ai déjà dit, mais lorsque ma mère était encore jeune fille, avec une autre collègue à l'époque, elles avaient une vingtaine d'années, elles sont parties au Mont-Saint-Michel. Et puis, elles ont commencé, bien sûr, à être sur la plage. Et puis, vous savez que là-bas, les marées sont passées quand même rapides. Et à un moment donné, eh bien, elles ont vu la marée arriver, sauf que, elles se sont retrouvées dans des sables mouvants. Elles commençaient à s'enfoncer. Et imaginez un petit peu la panique, hein, parce que plus, à ce qui paraît, on bouge, plus on s'enfonce. Et donc, ben, la mère est arrivée, et puis elle s'enfonçait, alors jusqu'à la taille, la poitrine, le cou, etc. Et au moment où eh bien, l'issue fatale est arrivée, il y a un brave pêcheur, hein, qui est arrivé avec sa barque. Il a eu juste le temps de les prendre. C'est pour ça, mesdames, peut-être les cheveux longs, ça peut servir à un moment donné, par les cheveux qui surnageaient un peu, et puis les retirer de la boue. Parce qu'elles s'enfonçaient, elles s'enfonçaient. Alors, c'est une image, bien sûr, l'eau profonde, hein, l'eau profonde, ça symbolise l'impossibilité d'y voir clair. Hein, je ne sais pas si vous êtes des fois rassuré quand vous nagez en eau profonde, vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, c'est pas très très sécurisé. Hein, on n'est pas lucide, on se dit, oulala, mais qu'est-ce que j'ai en dessous de moi? Ça, c'est l'eau profonde. Le courant qui nous emporte, ben, nous parle d'une force qui nous dépasse. On a beau essayer de nager à contre-courant, c'est plus fort que nous, on a plus le contrôle. Hein, et il y a une expression peut-être que vous êtes dit, mais là, je perds pied, je perds pied. Mon cœur est brisé, je perds pied, ça m'emporte. Et puis, la dernière image, eh bien, j'enfonce dans la boue. Ça nous parle d'appui qui se dérobe sous nos pieds. On pensait avoir peut-être quelques valeurs, quelques conseils, etc. Et puis, tous ces moyens qui sont peut-être bons, là, dans cette situation, ne servent pas. Le cœur est brisé et rien ni personne ne peut nous soutenir dans ces moments. C'est ce que, en tout cas, vit ici David. Et il va le rapporter à nouveau dans le psaume 22, dans le verset 15. Il donne cette image, il dit ceci: « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, il se liquifie au fond de moi. » Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer un petit peu cette réalité, mais on a la sensation de perdre toute son énergie, toute sa vie en un instant, à une nouvelle quelque chose, bien tout s'en va. Et c'est ce que David exprime ici encore une deuxième fois dans le psaume 22, c'est l'expression, et vous pouvez parfois vous retrouver dans ces images, hein, dont on est emporté sans pouvoir lutter. On a beau essayer, on a beau se dire, on a beau essayer là aussi de s'appuyer, et rien, il n'y a aucun appui, et puis on est plus lucide parce que bien on ne voit pas le fond, etc., et les choses sont très 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 compliquées. Alors, les réalités d'un cœur brisé, eh bien encore dans ce psaume, on trouve tout. Il y a quelques mots que nous connaissons, que vous connaissez. Épuisement, assèchement, fatigue, souffrance, détresse, sans ressources, insécurité. Hein, tous ces termes, ces expressions sont dans ce psaume. Et tout cela, eh bien, ce sont les réalités d'un cœur brisé. On a beau dire, bah, écoute, il faut que tu te secoues, ça ira mieux, fais des efforts, etc. Mais la réalité, elle est tout autre. Elle est tout autre, vous le savez, je le sais. On peut être les meilleurs conseillers du monde, les meilleurs amis, les meilleurs chrétiens, le meilleur pasteur, etc. Il y a des réalités qui sont là, que David est en train de vivre. On a Anne aussi en parallèle, hein, qui vit ceci. Hein, Samuel 1:7, il nous dit ceci. Alors, quand Pénina la provoquait, il est dit, elle pleurait, elle ne mangeait pas. Verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Quelle détresse pour Anne, pour cette femme, d'autant plus qu'elle doit faire déjà face à l'incompréhension de son mari. Elkana, ne comprend pas ce que vit Anne, qui est stérile, qui est touchée dans son identité de femme, de mère. Et Elkana, alors bien sûr, il fait ce qu'il peut en tant que mari, mais il essaye. Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas ton mieux que 10 fils? Je m'adresse aux sœurs là. Est-ce que une telle parole peut vraiment être une parole de consolation quand on est touché dans son identité? Alors bien sûr que ce mari fait de son mieux, mais là il y a une incompréhension. Il ne peut pas comprendre. Et puis il y a aussi le préjugé d'un certain Élie, le sacrificateur, de ce préjugé, qui en voyant Anne venir dans la maison de l'Éternel pour prier, a cette première réaction, elle est extraordinaire quand même. Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Je veux dire, c'est extraordinaire, pour un pasteur, etc. Va cuver ton vin. Il n'a pas compris. Pour elle, cette femme, elle est ivre, etc. Il la voit murmurer, marmonner, etc. Et c'est la seule interprétation qu'il a, c'est le seul préjugé. Va cuver ton vin. Il faudra là aussi, pour Anne, malheureusement, c'est la double peine. Non seulement le cœur est brisé à cause de ce qu'elle vit dans son identité, mais elle doit faire face aussi à l'incompréhension et aux préjugés des autres. Elle peut nous arriver aussi en plus, même en tant que chrétien, que parfois il y a comme un poids supplémentaire qui est ajouté sur nos épaules, parce qu'on n'est pas compris, même parfois de nos proches les plus intimes, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. C'est pas qu'il y a une quelque chose de malsain, mais on ne peut pas comprendre. Et puis aussi parfois bien par des chrétiens, voire des serviteurs de Dieu, qui ne comprennent pas et qui interprètent d'une mauvaise manière ce qu'on est en train de vivre. Ce sont là aussi quelques réalités que nous pouvons vivre, que peut-être quelqu'un vit encore ce matin. Alors, quelles sont les attentes d'un cœur brisé? Ou on pourrait poser la question autrement, mais est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose lorsque notre cœur est dans un tel état, lorsqu'il n'y a plus de réaction, lorsque nous sommes humiliés, lorsque notre identité est touchée, lorsqu'on dit « je suis anéanti », est-ce qu'il y a encore quelque chose pour notre cœur qui est brisé? Eh bien, David encore nous enseigne ce matin, et la première chose qu'il dit, avant de développer, il dit « sauve-moi, ô Dieu ». Sauve-moi, ô Dieu. Il commence par là, c'est le cri du cœur, on pourrait dire. C'est très court, mais c'est « sauve-moi, ô Dieu ». Voilà, c'est directement en ligne vers le ciel. C'est ce qui résume son attente, toute son attente, c'est « sauve-moi, ô Dieu ». En quelques mots, ici, David exprime ce qui est au fond de son âme, de son corps, de son esprit. Il n'y a que Dieu qui puisse le sauver. Et il n'y a que Dieu qui puisse engager un protocole de guérison, de restauration. Il n'y a que Dieu qui puisse, parce qu'il le connaît, parce qu'il sait exactement qui il est, quelle est sa culture, quelle est sa conception. Ô Dieu, sauve-moi. Sauve-moi, ô Dieu. Et j'aimerais nous rappeler ce matin, que malgré tout ce que nous vivons, tout ce que vous vivez peut-être, il y a encore et toujours un ultime espoir, un ultime recours en notre Dieu. Amen. Dieu n'en a pas fini avec nous. Et même si notre cœur est brisé en 1000 morceaux, même si notre vase est complètement brisé, il n'en a pas fini avec nous. Ô Dieu, sauve-moi. Ô Dieu, sauve-moi. Il n'y a plus que ça qui puisse s'exprimer. Il n'y a plus que ça qui puisse s'exprimer de nous. Ô Dieu, sauve-moi. Ésaïe 42, 3. Vous connaissez ce passage. Il ne brise pas le roseau abîmé. Il ne brise pas le roseau abîmé. Il ne piétine pas le cœur brisé. Il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Oui, ce matin, on a l'impression peut-être d'être un roseau, un vase ou un lumignon. Il ne brise pas, il ne piétine pas, il n'éteint pas, il n'éteint pas. Dans des versets 14 à 19, dans ce psaume 69, voilà ce que David dit, c'est sa prière. Il dit « Moi, je t'adresse ma prière. C'est le moment favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi. en m'accordant ton fidèle secours. Retire-moi de la boue, que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis, de l'eau profonde, que le courant ne m'emporte plus, que le gouffre ne m'engloutisse pas, que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, parce que ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi. Ne me cache pas ton visage. Je suis dans la détresse, réponds-moi vite. Approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis, etc., etc. Quel est le sens profond de cette prière? Qu'est-ce qui en fait le cœur? Qu'est-ce que recherche David ici avec son cœur brisé qui est meurtri? Réponds-moi. Tourne les regards vers moi. Ne cache pas ton visage. Réponds-moi vite. Approche-toi de moi. Qu'est-ce que cela exprime? Eh bien que David a avant tout a besoin de la présence de Dieu. David, avant tout, avant que Dieu fasse quelque chose, avant que Dieu agisse, il a besoin de la présence de Dieu, de son intimité, de sa communion, de sa proximité. Ensuite, Dieu pourra engager un protocole. Mais c'est le cri de David ici, « Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Hein, » Quand l'enfant est blessé, on l'a entendu ce matin, eh bien, la première chose que le parent va faire, il laisse tout et puis il se précipite. D'abord, la première chose, c'est le contact, la présence. Après, on étudie le protocole, la gravité. Mais il y a la présence, il y a la proximité, il y a la proximité. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ensuite, il pourra se décharger sur lui. Il pourra dire, les psychologues, et je n'ai rien contre, disent verbaliser, raconter. Partager, ouvrir son cœur, se décharger, parce qu'il aura l'assurance que Dieu va écouter d'abord. Et il le fera avec bienveillance, avec patience. Il le fera là aussi pour mettre en place ensuite le protocole de guérison, mais Dieu est à l'écoute. Et nous pouvons nous décharger sur lui eh bien de tous nos soucis, de tout ce qui ne va pas. Et David va raconter. Il y a quelque chose qui me surprend dans ce psaume, peut-être vous aussi, hein, quand il ouvre son cœur, David, à un moment donné, il parle de ses ennemis. Hein, et il dit à Dieu, écoute, il faut que tu t'en occupes, que tu te penses, que tu railles leur nom dans le livre de vie, etc. Alors, nous, bien sûr, avec un recul chrétien, on est dans le Nouveau Testament, hein, Jésus a dit, aimez vos ennemis, etc., etc. Ok, mais du temps de David, donc 10 siècles avant la venue de Jésus-Christ, David fait déjà un effort colossal, là. Parce que David est le roi. Il aurait pu dire à sa garde rapprochée, bon, hop, vous en occupez, une nuit, un soir, paf, et puis c'est fini, c'est terminé. Mais ici, David dit, écoute, il dit ça comme ça, Seigneur, écoute, mes ennemis, tu t'en occupes. Voilà. Alors bien sûr qu'il exprime sa peine, il exprime sa douleur, il dit ce qu'il souhaiterait. C'est pas pour ça que Dieu agira comme ça. Ça, je ne sais pas, c'est l'affaire de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, même face à ses ennemis, eh bien, David s'en remet à Dieu, il dit, Seigneur, tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Alors, bon, des fois, on est un petit peu comme ça, hein. Je ne sais pas, mais quand on prie pour quelqu'un qui ne veut pas se convertir, on a des idées, des fois, à donner à Dieu. Hein. Bon, Seigneur, une petite maladie, un petit accident, ça le ferait réfléchir, ça l'aiderait, etc. Bon, vous n'êtes pas comme ça, moi non plus, d'ailleurs. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais des fois, inconsciemment, Seigneur, ça pourrait l'aider. Seigneur, fais-nous grâce. Si Dieu va agir comme cela, il l'a fait pour moi au travers d'un accident, hein, donc il l'a fait pour moi. Je ne sais pas si ma mère a prié pour que j'ai un accident, ça c'est un autre débat, mais elle a certainement prié pour que je me convertisse et qu'un jour, eh bien, un Dieu touche mon cœur. Et il l'a fait en tout cas de cette manière. En tout cas, eh bien, voilà les attentes d'un cœur brisé. Et c'est la même chose pour Anne. Hein, 1 Samuel 1:10, il dit ceci, que Anne, l'amertume dans l'âme, va quand même prier. Elle va s'adresser à Dieu. Elle va dire, Seigneur, bien, voilà, tu connais tout, mais elle va s'adresser. Alors on va terminer en tout cas ce moment, guérison d'un cœur brisé, mais que ce ne soit pas la fin pour nous, que ce soit au contraire le commencement de quelque chose que Dieu va commencer à reconstruire avec nous, à construire, à édifier. C'est la guérison d'un cœur brisé. Hein, dans la fin du psaume, eh bien, David l'exprime, vous pourrez relire hein, chez vous ce qu'il dit concernant la louange, l'adoration, concernant eh bien, ces promesses qui sont là. Et Anne également, vous relirez dans 1 Samuel 2:10, elle écrit un magnifique cantique, un magnifique psaume qu'on pourrait tous chanter ce matin. Mais il y a donc pour nos cœurs brisés une véritable source de guérison intérieure. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le 3 décembre 1967, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette date. Tiens, que s'est-il passé le 3 décembre 1967 ? Ça se passe en Afrique du Sud. C'est un professeur, Christian Barnard, voilà, hein, qui est un chirurgien. Donc, je pensais qu'il était français, mais il était sud-africain. Et avec une équipe là, de scientifiques, eh bien, il accomplit la première greffe du cœur de l'histoire. C'est la première greffe du cœur de l'histoire. On est en 1967. En France, c'est en 68 avec le professeur Christian Cabrol. Mais il y a 2000 ans, dans une synagogue, dans la synagogue de Nazareth, eh bien, Jésus va proclamer ceci. Et j'aimerais qu'on puisse l'afficher, Luc 4, 18, ce que Jésus va proclamer il y a 2000 ans, bien avant la première transplantation cardiaque en 1967. Il y a 2000 ans, voilà ce que va déclarer Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la suite est intéressante pour nous. Elle ne s'arrête pas là. Parce qu'on pourrait dire, oui, Jésus l'a dit, l'a déclaré il y a 2000 ans, mais si on lit la suite, eh bien la suite est aussi extraordinaire. Et on va la partager donc, ce matin. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Et puis il y a encore la suite qui ce matin doit nous interpeller, doit nous intéresser. Voilà ce qu'il est dit, etc. Il roula le livre, hein, le remit aux serviteurs. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Et puis la suite, et encore toujours la suite. Voilà ce qu'il est dit. Alors il commence à leur dire, il dit quoi ? Dites-moi voir, qu'est-ce qu'il est écrit ? Aujourd'hui. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Aujourd'hui. Pas en 1968, pas simplement aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a 2000 ans, la parole de Jésus est accomplie. Et cette parole nous dit ce matin, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il y a 2000 ans, c'est Jésus qui devient... Et qui est, on va prendre le parallèle, le divin chirurgien, bien sûr, pour annoncer, pour proclamer qu'il y a un protocole de guérison désormais, eh bien, qui est établi, qui est accompli, qui est réalisé. Ça fait 2000 ans que Jésus l'a accompli, l'a réalisé. Et ce protocole, eh bien, le divin chirurgien, Jésus, vient avec son bistouri. Son bistouri, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Hébreux nous rappelle. La parole de Dieu qui sépare un bois de jointure, qui sépare âme et esprit, et qui va aller au plus profond, qui va aller avec une précision extraordinaire, eh bien, réparer nos cœurs, toucher nos cœurs brisés. Jésus ne se trompe pas. Et pour Jésus, ce matin, chaque cœur brisé est considéré, bien sûr, avec le même soin. Jésus va nous soigner de la même manière, suivant le même protocole. Il va adapter les soins, certainement. Aujourd'hui, à partir de 1968, il n'y a que très peu de transplantations cardiaques. Hein, c'est quelques milliers dans le monde, vous regarderez. Mais aujourd'hui, ce protocole de Jésus pour guérir un cœur brisé, il est accessible à tous. Il est pour tous. Et ainsi, eh bien, Jésus, ce matin, nous soigne d'une manière personnelle, adaptée à nos besoins. Jésus sait exactement qui nous sommes. Il sait que nous avons des histoires différentes. Il sait que nous avons des sensibilités différentes. Il sait que nous avons des réactions à la douleur différentes. Hein? Parfois, on dit à quelqu'un qui a eu, je sais pas, une petite écharpe dans le doigt et puis qui se plaint, « Oh, t'es une chochotte, toi !» Mais il y a des gens qui sont très sensibles à la douleur. Et puis d'autres, vous pourriez leur arracher le doigt comme ça, ils ne sentiraient rien. Bon, ça peut arriver aussi. Mais ne nous comparons pas les uns les autres. Jésus sait exactement notre seuil de résistance à la douleur, il sait exactement le protocole qu'il a besoin. Il y a dans le domaine de la guérison du cœur, il y a des guérisons qui peuvent être instantanées, où Jésus vient nous guérir, nous délivre, nous bénit, etc. Et c'est une transplantation cardiaque instantanée. Et puis pour d'autres, et on ne sait pas pourquoi, mais Jésus le sait, Et pour Jésus, c'est exactement le même protocole de soins, d'amour et de bienveillance. Ben, il faudra des soins post-opératoires, il faudra peut-être un accompagnement, il faudra peut-être apprendre à nouveau quelques gestes ou d'autres habitudes, etc. Mais le protocole de guérison est engagé de la même manière pour les deux cas. Que ce soit un cœur brisé, guéri instantanément et on y croit, ou que ce soit un cœur brisé qui va vivre un protocole d'accompagnement, on y croit également, eh bien pour Jésus c'est la même chose. Il nous accompagnera de la même manière. Et ne nous disons pas ce matin que nous sommes moins spirituels si nous ne sommes pas guéris intérieurement, et si nous avons besoin d'un protocole d'accompagnement, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec notre spiritualité. Simplement, que Jésus connaît exactement au mieux le protocole de soins dont nous avons besoin. Dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, il existe plusieurs termes pour le terme de guérison, hein, quand guéri, etc. Il y a le terme qu'on connaît tous, hein, guérison, salut, il a été guéri, il a été sauvé, ça c'est le terme générique. Mais il y en a un autre qui a donné le mot thérapie. Et dans la Bible, c'est traduit par guérir. Il a guéri. Et une thérapie, c'est un accompagnement, c'est un traitement sur du long terme, ce sont des phases, etc. Et Jésus a thérapié, voilà, était le thérapeute, mais aussi le sauveur, celui qui guérit instantanément. Et ce matin, il n'y a aucune honte, aucune culpabilité à vivre l'une ou l'autre des thérapies ou de soins, parce que Jésus sait nous soigner de la meilleure façon possible. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'intervention divine ce matin pour nous réparer, pour nous soigner, pour nous guérir, eh bien, sachons que nous avons l'assurance d'être pris en charge toujours à 100% par Jésus. Amen. Il va nous prendre en charge et nous prend en charge à 100%. On termine par le psaume 34, versets 1 à 9. Et puis, on pourra à nouveau peut-être chanter quelques chants ce matin. Et si ce matin, des bien-aimés ont besoin simplement qu'on puisse prier ensemble, avec vous, pour que le Seigneur, là aussi, fasse son œuvre de guérison, donc il connaît, il sait, eh bien, nous voudrons prendre ce temps aussi pendant un moment où nos frères et sœurs pourront nous accompagner dans le chant. Le psaume 34, versets 1 à 9. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute la fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et puis versets 18 à 20. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. C'est aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, que nous voulons laisser cette parole aussi s'accomplir dans nos vies. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas simplement évident qu'un protocole a été établi par Jésus, mais pour nous, bien le temps, il est maintenant, il est ce matin, il est à partir de ce matin. Alors nous voulons prendre encore quelques instants, ce matin ensemble, on va chanter quelques cantiques, on va rechanter ce beau chant, son nom est Jésus. Et puis s'il y a des bien-aimés qui veulent venir tout simplement hein, sur le devant, pendant quelques instants, on va prier le Seigneur. Si c'est votre... C'est une démarche. Alors, comprenez-moi bien, hein, vous pouvez vivre la même démarche assis sur votre chaise. Il n'y a pas d'obligation. Chacun là aussi, et Jésus respecte ce matin. N'entrez pas non plus dans cette conception de dire « Ah, je ne me suis pas approché ce matin, donc je suis resté, pourtant j'aurais voulu que, etc. » Jésus connaît, Jésus sait.